Donc je sais pas si c'est que du DIY ou ils ont fait ça tout seuls, et dans ces cas-là, franchement, chapeau bas.
Mademoiselle Deray, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
Intégralement pas filmé, un podcast présenté par Alice Lavigne et Quentin Albo.
Vous êtes beau, vous êtes prêts ?
Bonjour à tous et bienvenue dans Intégralement pas filmé pour le 3e épisode de cette saison 2. Et comme à l'accoutumée, je suis entouré de la majestueuse, de la sublimissime Alice Lavigne. Wow. Comment ça va, Alice ?
Ben, ça va super, Quentin. Merci pour tous ces petits adjectifs qualificatifs, ça fait du bien. Beaucoup de bien à mon ego.
Cette semaine, je vous parle du nouveau film de Taika Waititi, Jojo Rabbit.
Puis, je vais vous parler du groupe dublinois Inhaler.
Ensuite, on va vous faire la petite recommandation hebdomadaire et on parlera, encore une fois, pour ne pas changer, d'un programme Netflix qui s'appelle Next in Fashion.
Et enfin, pour l'idiot du village, le deuxième idiot du village, on va vous parler du cyberharcèlement, en particulier sur les lives. Mais du coup, Quentin, est-ce qu'on n'irait pas se faire une petite toile ?
Eh ben écoute, t'es plutôt salé ou sucré pour le popcorn ?
Plutôt salé.
Alors attrape ta boîte et on file s'installer sur les fauteuils rouges.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde !
Comme je vous l'ai dit en introduction, cette semaine, je vous parle de Jojo Rabbit, le nouveau film de Taika Waititi, à qui l'on donne notamment Thor Ragnarok.
Merci d'ailleurs.
Que j'ai particulièrement apprécié pour son humour. Dans ce film, notre cher Waititi réunit un casting 5 étoiles, composé notamment de Scarlett Johansson, qu'on ne présente plus. N'est-ce pas ?
Bouh !
Dans le rôle de la mère de Jojo, nous avons aussi Sam Rockwell, qu'on a pu voir dans Vice ou dans Three Billboards. Dans le rôle du capitaine Klenzendorf, c'est très dur à dire, les noms sont horribles. Donc je vais en citer qu'un seul. On a aussi Rebel Wilson, l'Australienne déjantée de Pitch Perfect, Alfie Allen, Schlang de Game of Thrones, et surtout, Taika Waititi, lui-même dans le rôle d'Hitler.
Yes !
Dans ce film, les acteurs qui crèvent l'écran ne sont cependant pas ceux que l'on croit, puisque les deux révélations de ce film sont les deux enfants, Roman Griffin Davis et Thomasine McKenzie, respectivement Jojo et Elsa. Donc de quoi parle ce film ? Parce que je vous rappelle que le pitch de base, c'est un gosse qui a pour meilleur ami Hitler, ce qui est un petit peu borderline.
Un peu, ouais.
Donc cette comédie satirique et déjantée raconte l'histoire de Jojo, un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier, Elsa. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. On découvre alors un Adolf Hitler hilarant, déjanté et excentrique, guidant le jeune Jojo dans sa découverte de ses sentiments, sa remise en question de ses convictions, mais aussi et surtout à travers la Seconde Guerre mondiale. La seule crainte que j'avais, c'était non pas celle de la dimension subversive du film, parce que c'est un film subversif et ça me dérange pas du tout, mais par rapport au traitement de l'événement, tu vois, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas... c'est un peu touchy.
Ouais.
Donc faire une comédie de guerre, ça me dérange pas, mais j'avais peur qu'il rende Adolf Hitler sympathique, ou qu'il minimise énormément tous les enjeux de la guerre et l'horreur que c'était. Donc là où il est très très fort avec Waititi, c'est qu'il arrive à nous faire rire avec un sujet aussi fort,
ouais,
avec un sujet aussi touchy. Et tout simplement, là où il m'a bluffé, c'est qu'en fait, il nous fait rire parce qu'il prend cet événement à travers les yeux de l'enfant. Et donc forcément, l'enfant nazi, naïf, il y a forcément des moments où ça va devenir un peu ridicule, tu vois.
Ouais.
Et donc il arrive à nous transmettre toutes ses émotions et tous les faits, en fait, parce que tu vois clairement le traitement des ennemis du Reich qui se font pendre, qui se font frapper et tout. Et t'as aussi énormément de ridicule parce qu'en fait, quand tu prends du recul sur la situation, le nazisme qui dit il y a une race supérieure, c'est les blonds aux yeux bleus, tu vois, c'est ridicule.
Mmh.
Alors évidemment, les personnages sont grossiers, ils sont hauts en couleur, certains deviennent ridicules, notamment les personnages secondaires. Je pense Rebel Wilson, par exemple, son personnage n'a pas vraiment d'intérêt scénaristique, mais humoristiquement, elle est très importante.
Mmh.
Mais les personnages principaux sont extrêmement bien travaillés, ils sont plus humains que les autres, pour certains. Pas pour Adolf Hitler par exemple, mais du coup t'as tout ce contraste entre nazisme et être humain, et donc t'as des rôles de nazis dans le film qui ont cette petite faiblesse d'être humain, tu vois, de sympathie, ce qui rend le film très intéressant et du coup un peu plus crédible.
Ouais.
Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que chaque personnage principal a sa petite intrigue, tu vois.
Ah ouais ?
Il y a des petites intrigues par personnage où tu te dis pourquoi il est comme ça, pourquoi il a vécu ça, comment ça s'est passé, tu vois, des trucs comme ça.
Ouais.
Et donc c'est super intéressant. Au-delà de tout ça, le réalisateur nous offre surtout un magnifique film en termes graphiques. Les plans sont hyper beaux, la photographie est hyper léchée. Et ça rajoute encore un peu plus de cachet à ce film où tu te dis ah, c'est ridicule, ça va être une comédie burlesque et tout. Et du coup, en fait, non, c'est un vrai film. Et Taika Waititi le fait très bien, faire une comédie presque populaire tout en gardant ce petit cachet de film esthétique, tu vois ce que je veux
ouais.
dire. Donc c'est hyper agréable à voir, hyper agréable à suivre. Et donc, vous l'aurez sûrement compris, pour moi, ce film est très, très, très proche de la perfection.
Ouh.
C'est une histoire originale à laquelle on accroche, on rigole du début à la fin, on verse aussi notre petite larme de temps en temps, on apprécie les couleurs, on apprécie les images, le jeu d'acteurs. Il n'y a aucune performance qui fait tâche, et ça, je tiens à le préciser, c'est vraiment que des acteurs formidables. Même le mec en dernier plan, il joue bien, tu vois.
Ouais.
T'as aucun moment où tu te dis « Ah non, j'y crois pas ». Et donc, on sort du film en ayant l'impression d'avoir pris une leçon de cinéma. Et ça, c'est quand même le signe des bons gros chefs-d'œuvre, je trouve.
Je pense, ouais.
Donc tu l'auras compris, j'ai adoré Jojo Rabbit. J'ai pas voulu te rendre sur l'histoire pour pas spoiler,
ouais,
que ce soit les vannes ou l'intrigue, parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça, et que vraiment, j'imagine que beaucoup de gens l'auront déjà vu. Mais si vous l'avez pas vu, mais foncez voir Jojo Rabbit de Taika Waititi, qui est sorti il y a 2 semaines.
Mais tu dis que tu as adoré ce film, mais ici... Rien n'a de valeur si on ne la quantifie pas. Donc combien mettrais-tu de Quint à Jojo Rabbit ?
Alors Alice, tu me connais, contrairement à toi, j'ai du mal à mettre 5. Parce que pour moi, la perfection n'existe pas. Si, ça existe en vrai, il y a des films ouf. Mais du coup, malgré toutes les qualités que je lui trouve, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit le film qui changera ma life.
Ouais.
Tu vois, donc 5 sur 5, c'est vraiment le film qui change une vie, qui change une société. C'est le film qui va nous faire vivre ensemble. Non, je rigole, c'est pas du tout. Non, un bon Cité de la Peur, ça vaut 5 pour moi, mais... Taika Waititi, Jojo Rabbit, vu que c'est excellent, mais pas parfait, je mettrais genre 4,7.
Waouh.
Il a 3 décibels de la perfection, et ça, je trouve ça stylé.
C'est beau.
Donc si Taika nous écoute, désolé frérot. Sorry bro, it's not against you, but it's not perfect, Jojo Rabbit. Hein.
Allez, bisous à toi.
J'espère vraiment qu'il nous écoutera.
C'est une certitude.
Il n'y a pas de raison. De toute façon, il a participé à l'idée du village, donc j'imagine qu'il nous écoute de temps en temps. Oups, j'ai divulgué la fin du podcast. Alors, après avoir fait la découverte de ce film magnifique, est-ce que tu penses pas qu'il serait temps d'aller écouter un petit peu de musique dans ta playlist, Alice ?
Bah, pourquoi pas ? Mais t'es plus CD, vinyle, streaming ?
Ah, moi, je suis clairement streaming. Moi, je suis un mec 2.0.
Ouais, et ben, prends ta 4G, on arrive.
Vous aimez Mozart ?
Oh oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Alors cette semaine, je reviens aux roots parce que je vous parle d'un groupe de pop-rock et un groupe de pop-rock irlandais, qui plus est. Je vais vous parler du groupe Inhaler. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être que non, parce que c'est un groupe qui est vachement en train de monter et je pense qu'ils ont moyen de monter sale. Alors ce groupe existe officiellement depuis 2015, il existe depuis 2012, mais il existe sous le nom de Inhaler depuis 2015, et il est composé du batteur Ryan McMahon, du guitariste Josh Jenkinson, du bassiste Robert Keating et du chanteur qui s'appelle Elijah Hewson. Et c'est de là que vient tout l'engouement autour de ce groupe, c'est autour du chanteur Elijah Hewson, puisque son papa est Paul David Hewson, que tout le monde connaît. Et là, tout le monde se dit, mais attends Alice...
Je connais pas Paul David Hewson.
Qui est Paul David Hewson ? Si je vous dis que Paul David Hewson est le chanteur de l'un des plus grands groupes de rock au monde, qu'il se pointe sur scène avec des petites lunettes teintées et que son nom de scène se comprend en 4 lettres. Les 4 lettres étant B-O-N-O, c'est Bono.
Bono ! Oh no !
Et oui, le père du chanteur de Inhaler est Bono, le chanteur de U2, qui est considéré comme le plus grand groupe irlandais au monde, juste comme ça. Je pense qu'il faut garder ça en tête quand on parle de ce groupe et du succès fulgurant qu'ils ont, parce que, ben, évidemment, qu'ils le disent ou non, papa a des contacts, papa a des facilités. Quand tu te pointes et tu dis « je suis le fils de Bono », forcément ça vous déporte. Donc voilà, juste... À prendre avec des pincettes, ces 4 jeunes hommes, et je dis jeunes hommes puisqu'ils sont de 99 et de 2000, donc plus jeunes que nous, qui se sont rencontrés à l'école à Dublin, et c'est comme ça qu'ils ont formé le groupe qui, à la base, n'avait pas de nom. Sauf que au début, ils se sont dit, on va juste faire ça pour le fun, on veut pas être des rockstars, c'est pas notre but dans la vie, c'est juste, on veut occuper nos journées, ça va jamais être quelque chose de grandiose. Puis peut-être que Papa Bono a fait opérer sa magie, et c'est devenu l'un des groupes de la nouvelle scène irlandaise les plus en vogue. Et donc je disais qu'au début ils n'avaient pas de nom de groupe. Finalement, ils se sont dit on va partir sur Inhaler, qui veut dire...
Inhalateur.
Merci Quentin Word Reference.
Telle la ventoline.
Puisque le chanteur Elijah est asthmatique et que sa sœur se moquait de lui. Et donc quand elle allait les voir en répétition, elle disait « Ah, c'est The Inhalers !» Et eux, ils ont fait « Bah ok ». C'est notre nom.
Bah, banco.
Voilà la jeunesse du groupe. Et donc, ils ont signé chez Polydor. Ils ont pour le moment seulement 8 chansons à leur actif. Ils n'ont pas encore d'album. Ils ont juste sorti des singles par-ci par-là. Je pense qu'un album est en préparation.
Je pense aussi.
Quant à leur style, je dirais que c'est un style qui rappelle vachement les années 80, puisqu'il mélange guitare et synthé. Et puis, bon, est-ce que je dis ça juste parce que je le sais ? Il y a moyen. Mais je trouve qu'on retrouve vachement de la voix de Bono dans la voix du chanteur. Alors déjà, ils se ressemblent physiquement, mais au niveau de la voix, il y a des moments où tu fermes les yeux et t'as l'impression de retrouver celle de Bono. C'est assez flippant, je trouve. Donc, comme j'ai dit, ils ont sorti 8 chansons. Je vais vous en parler de quelques-unes pour vous donner une petite idée de ce qu'ils font. Alors, on commence par le meilleur ou par le moins bien ?
Toujours finir sur la meilleure note.
Je vais commencer par celle que j'aime le moins, qui s'appelle « It won't always be like this ». En soi, la chanson est pas mauvaise. Elle est plutôt sympa, mais pour moi, c'est extrêmement commercial. Je l'écoute, mais c'est pas la chanson où tu vas l'écouter et tu vas te dire « Waouh, c'est de l'art !» Enfin, tu sais, et ça n'a rien de mauvais. Mais quand tu compares avec ce qu'ils font à côté, tu te dis... Enfin, t'as l'impression qu'ils sont vraiment pas foulés sur celle-là et que c'est une chanson qui a été faite pour marcher. Peut-être que j'ai tort, mais c'est l'impression que ça me fait.
Je pense pas que t'aies tort, je pense juste que c'est pour un... Enfin, je vais dire un petit groupe, mais... Pour un groupe qui débute, tu vois, t'es obligé de faire au moins une chanson que t'espères va être virale pour te faire un nom, genre. Donc je leur en veux pas.
Si tu leur en veux pas, c'est le principal.
En tant que rockstar, je les comprends.
Mais du coup, c'est assez bizarre parce que la toute première chanson qu'ils ont sortie, qui s'appelle I Want You, qu'ils ont sortie donc en 2018, je la trouve beaucoup plus sympa. Elle est vachement chouette parce qu'elle a sur ce côté ultra vintage, années 80. C'est honnêtement, tu me dis que... C'est un groupe de cette époque qui a sorti cette chanson, je ne serais pas capable de faire la différence parce qu'ils ont mis des effets sur la voix du chanteur. Ce qui fait que sa voix, t'as pas l'impression qu'elle est en HD, tu sais. Elle a l'air un petit peu comme s'il parlait à travers un voile. Et du coup, je trouve que ça donne un effet vachement chouette à la chanson. Ça fait bien chanson de fin d'été, tu sais. Elle est vraiment chouette. Après, bah, je peux parler de leur plus connu, qui s'appelle My Honest Face, qui est, pareil, très chouette. Bon, après, comme je disais, il faut toujours avoir en tête que y a forcément l'influence d'une des plus grandes rockstars du monde derrière ce groupe, peut-être pas, mais il y a moyen. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans cette chanson, My Honest Face, qui, donc, je rappelle, ce groupe n'a que 8 chansons à son actif, les gars ont à peine 20 ans, et cette chanson a 4 600 000 écoutes sur Spotify. Mais cette chanson a tout d'une bonne chanson. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la production, au niveau des instruments, au niveau des effets, au niveau de comment il positionne sa voix, il n'y a rien qui ne va pas. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Donc je ne sais pas si c'est que du DIY où ils ont fait ça tout seuls. Et dans ces cas-là, franchement, chapeau bas.
Oh.
Mais en tout cas, je pense qu'ils ont beaucoup de talent parce qu'ils savent ce qui marche, ils utilisent ça et ils arrivent quand même à ajouter leur patte à ça.
Ouais.
Celle qui, pour moi, change le plus, c'est Ice Cream Sundae, qui est, comme le nom l'indique, c'est vachement une chanson d'été.
Ouais, puisqu'on parle de crème glacée.
Là, c'est vraiment du synthé à fond. Encore une fois, inspiration années 80, mais surtout, la voix du chanteur, je la trouve ultra stylée sur cette chanson, parce que je trouve sa voix est un peu traînante. Et du coup, ça rend quelque chose de super agréable. Il a une très très belle voix, faut le dire. Et ouais, sur cette chanson, je trouve que c'est la bonne chanson d'été. Punchy, mais en même temps un peu nostalgique, vu qu'il garde cette patte des années 80. Synthé en masse. Et ouais, pour le moment, sur les 8 qu'ils ont sortis, je pense que c'est la plus, avec des gros guillemets, expérimentale. Et nous arrivons à la toute dernière, qui s'appelle We Have To Move On. Je dis toute dernière puisqu'elle est sortie le 29 janvier 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle est très très chouette. Ils gardent les synthés qu'on retrouve sur les autres, mais celle-là, je trouve qu'il y a plus de guitare.
Ouais.
Il y a une ligne de basse qui est super stylée dessus. Et je trouve que sur cette chanson, le chanteur met plus de puissance dans sa voix. Il me fait énormément penser au chanteur de Catfish and the Bottlemen, ceux qui connaîtront, verront à peu près la voix dont je parle, la voix de Van McCann, qui est un peu plus brute de fonderie, tu sais, mais super jolie. Et il faut quand même noter que ce groupe a été félicité par...
Bono, ce qui n'est pas surprenant.
J'espère. Mais ils ont été félicités par Noel Gallagher. Donc Noel Gallagher, si vous ne connaissez pas déjà, honte à vous, c'est un des anciens membres de Oasis, à tel point qu'il les a comparés à Echo and the Bunnymen et U2, qui sont deux énormes groupes, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Ils ont fait la première partie de Monsieur Noël Gallagher.
Ah, oh, stylé ça.
Ce qui n'est pas négligeable, donc bravo à eux. Et d'ailleurs, Anaïs, la fille de Noël Gallagher, a réalisé leur clip pour My Honest Face. Et le clip est très sympa d'ailleurs, vous pouvez aller le voir. Vraiment, je pense que c'est un des groupes montants de la nouvelle génération de pop-rock, surtout en Irlande, mais ils s'exportent énormément. Ils seront d'ailleurs en concert le 2 mars à la Maroquinerie à Paris, si ça peut en intéresser certains. Après, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va durer ? Je leur souhaite, parce que j'aime bien leur musique, sinon je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et surtout, est-ce qu'ils arriveront un peu à se détacher de l'ombre de Bono ? Ben, du coup, comme je l'ai fait, tous les médias en parlent comme le groupe du fils de Bono. Ce qui doit être un peu relou à la longue.
J'espère qu'ils vont réussir à... Après, c'est en les médias, malheureusement.
Mm-hmm.
Parce qu'eux ne se présentent pas sur scène. Ouais, on est le groupe du fils de Bono, tu vois.
Oui, mais ils ne se recachent pas.
Oui, oui. Bah, parce qu'en même temps, c'est une pièce à deux faces, quoi. D'un
c'est
côté, ça.
Ça
te ramène de la visibilité. Et d'un autre côté, ça t'amène une ombre sur toi toute ta carrière. Donc, est-ce que ça valait le coup ? On le découvrira.
Affaire à suivre.
Et si tu devais noter le groupe du fils de Bono sur 5 étoiles, enfin sur 5, que dis-je ? Enfin, étoiles parce que t'es ma star. Sur 5 petites têtes d'Alice, combien tu leur mettrais ?
Eh ben écoute, j'aime bien leur musique. Je trouve que ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est très sympa à écouter. Tout ce qu'on écoute n'a pas besoin de changer notre vie, hein, loin de là. Du coup, je leur mettrais, allez, un petit 3,8.
C'est très bien.
C'est un bon groupe, voilà.
Bah, avec cette moyenne, ils passent un CM2, donc pas mal.
Bravo à eux, on les félicite.
Bravo. N'oubliez pas votre liste de fournitures l'année prochaine.
Mais du coup, pour qu'ils puissent s'occuper les mercredis après-midi, ils ont besoin de savoir quoi faire. Donc, est-ce qu'on passerait pas à la petite reco de la semaine ?
Eh ben, écoute, on va leur montrer ce qu'on peut faire avec une aiguille et du baume fil. Comme on vous l'a dit en début de podcast, cette semaine, on vous parle de Next in Fashion, qui est un programme original Netflix de télé-réalité. Comment tu décrirais ce programme, Alice ?
Alors, donc déjà, on a dit télé-réalité, on sait ce que vous êtes en train de vous dire. Non, c'est pas les ch'tis. C'est une télé-réalité à l'américaine, comme l'était Queer Eye, dont nous avons parlé précédemment. D'ailleurs, je rebondis en disant Queer Eye, puisqu'il y a deux présentateurs de cette émission. Les deux présentateurs sont Tan France, qui est donc le spécialiste mode sur Queer Eye, et Alexa Chung, qui est une présentatrice télé et top modèle et écrivaine et designer britannique. En bref, son pedigree est assez immense.
Elle est multicasquette.
Cette émission est diffusée depuis le 29 janvier, comme la toute dernière chanson de Inhaler, tout est connecté.
C'est dingue.
Et donc pendant 10 épisodes, 18 designers professionnels, et on insiste sur le professionnel, puisqu'ils ont soit tous déjà leur ligne de vêtements, ou ils ont déjà tous travaillé chez un grand créateur, donc il me semble qu'il y en a une qui a travaillé chez Alexander Wang.
En tout cas, ils ont au moins habillé une star.
C'est ça, genre Beyoncé par exemple. Donc ces 18 designers chevronnés vont s'affronter chaque semaine sur des épreuves et chaque épreuve a un thème particulier. Dans les thèmes, on retrouve notamment rock, jeans, lingerie,
robe de soirée, militaire, tout un tas de bonnes choses.
Et tant d'autres. Et surtout, c'est pour ça qu'on vient regarder, le gagnant va gagner $250,000. J'ai fait la conversion pour vous, c'est 227 000 euros.
Ce qui est pas rien.
Ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, une de leurs collections sera hébergée sur Net-à-Porter. Pour vous dire, en gros, Net-à-Porter, c'est le ASOS pour les vêtements de luxe. Donc ça leur donne une visibilité assez immense.
Alors, comme vous l'a dit Alice, c'est une télé-réalité américaine, mais on ne retrouve pas que des Américains, puisqu'on retrouve aussi des candidats italiens, mexicains, portoricains, on retrouve des asiatiques, une coréenne et une chinoise.
Oui.
On a aussi un canadien, enfin vous l'avez compris, c'est une émission assez village global. Et du coup, tous ces designers d'un immense talent s'affrontent et il ne restera qu'un à la fin.
Alors, moi je sais pas ce que t'en as pensé, mais ce qui m'a beaucoup plu dans cette émission, outre le fait qu'ils sont tous absolument bourrés de talent, c'est la bienveillance de chacun des candidats. Parce que souvent on dit compétition, surtout compétition de télé-réalité américaine, c'est que je pense notamment à une émission du même type qui s'appelle Project Runway, où le but c'est de se tirer dans les pattes et tout, un sentiment ultra compétitif, sauf que là c'est pas du tout le cas.
Tu sens vraiment une entraide de ouf, ils sont tout le temps là à se demander les uns les autres, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et ce qui m'a choqué, c'est que, on va pas spoiler, mais même en finale, les gars sont toujours aussi bienveillants et se donnent des conseils l'un l'autre.
C'est ça.
Et c'est magnifique.
Ouais, je vois à quel moment tu pensais.
Ouais, et franchement j'étais là en mode, merde. Bah lui dis pas frère, laisse-le ou la perdre. C'est... Moi j'aurais dit, excuse-moi, je vais pas te répondre, sinon tu vas gagner en fait.
Bah ouais.
Mais du coup ouais, je suis totalement d'accord là-dessus, c'est une émission extrêmement feel good, dans le sens où c'est de la compétition mais pas du tout malsaine.
Mm-hmm.
C'est incroyable. Moi je voulais revenir sur un truc que les Américains font très bien, c'est comment ils arrivent à rendre un truc au final pas hyper important, dramatique à souhait. C'est drama sur drama sur drama. Le mec rate une couture et t'as une musique de violon tout de suite.
C'est vrai.
T'as un gros plan sur sa face dans le confessionnal qui chiale en mode « Je sais pas pourquoi j'ai raté cette couture, je sais la faire d'habitude. » Et c'est incroyable. Et t'es à fond dedans du début à la fin, c'est génial.
Ah mais complètement.
Et pour le coup, j'aimerais dire à nos auditeurs que, je sais pas toi, mais pour ma part, la mode, ça m'intéresse pas du tout. Et pourtant, ça se binge comme une série en fait.
Complètement.
T'as des personnages, t'accroches à des personnages, t'en as que tu aimes bien, t'en as que t'aimes pas du tout. Et ouais, c'est une série en fait. Et je pense que c'est un peu produit comme une série.
Ouais.
Dans le sens où il t'incite à voir la suite, direct t'as le petit happening à la fin en mode bah clique sur le bouton suivant et je trouve ça hyper sympa.
Ouais, et puis ouais, enfin c'est ultra agréable, comme on disait, du coup il y a pas la compétition, donc forcément c'est le type de série que tu regardes d'un œil, mais ça fait un gros câlin. Et puis surtout, il y a énormément de qualité dans cette série. Ils sont tous très très talentueux. Et les deux présentateurs, ils sont très très bien tous les deux. Je trouve aussi qu'ils sont pas dans la démesure, toujours à hurler partout. Je les trouve assez justes. Et il y a une bonne alchimie entre les deux aussi.
Ah bah moi, j'ai découvert totalement Alexa sur cette série. Et je la trouve fantastique. Elle est belle, elle est drôle, elle est intéressée. Et tu sens que quand il pose une question au candidat en mode comment tu te sens, qu'est-ce que t'en penses et tout, il s'intéresse vraiment. Après, c'est peut-être totalement fictionnel. Est très très bien fait juste, mais t'as l'impression qu'ils ont vraiment créé un lien avec chaque candidat, un lien différent, ouais. Et t'as l'impression que c'est un peu leur bébé et qu'ils veulent tous qu'ils aillent au bout. C'est hyper bienveillant, encore une fois. Et sur le duo de présentateurs, je trouve que là où ils sont très forts, c'est qu'il n'y a pas bon flic méchant flic. Les deux ont des périodes où quand ils aiment pas un truc ils le disent, mais quand ils aiment un truc ils le disent aussi.
Ouais, ils sont très justes.
Ouais, puis les guests, les juges guests, c'est incroyable.
Ouais,
parce qu'en fait à chaque fin d'épisode ils font du coup un défilé et les deux présentateurs et deux guests jugent ensemble les pièces pour décider qui va partir de l'aventure et qui va rester.
Bah pour vous donner une idée, dans les guests, il y a eu Tommy Hilfiger et Adriana Lima. Voilà, c'est des noms que tout le monde connaît.
Bah clairement, si tu connais pas ces noms-là, c'est que tu vis dans une grotte depuis 82. Même avant, parce que Tommy Hilfiger, ça date un peu. Et d'ailleurs, ça se voit sur sa face. Il a fait un peu de chirurgie esthétique, je pense, le bougre.
Je pense.
Donc voilà, c'est Next in Fashion sur Netflix. C'est 10 épisodes d'à peu près une heure.
À peu près, ouais.
Et on vous invite très, très fortement à regarder ça. Que vous aimiez la mode ou pas, que vous aimiez les télé-réalités ou pas, ça va vous plaire. N'hésitez pas à y jeter un œil. Est-ce qu'on passerait pas à notre petite chronique préférée de cette saison? J'ai nommé L'idiot du village, Alice.
Mon Dieu, comme j'ai été sotte. J'ai cru que...
Nous avons été sottes, toutes les deux.
Qui est l'idiot du village cette semaine?
Eh ben écoute, cette semaine, l'idiot du village, c'est la toile.
C'est ce qu'on appelle le net.
L'interweb?
L'interweb. Meilleur nom.
Alors cette semaine, on a décidé de vous parler du cyberharcèlement, en particulier en réponse à la fameuse controverse autour du live. Mais donc, qu'est-ce que c'est le live si vous nous avez pas suivis sur Instagram? Voilà le petit récap. Alors donc, la semaine dernière, la société Webedia a lancé la chaîne Le Live. C'est décrit en gros comme le nouveau média hybride pour les millennials, donc nous.
Déjà, je trouve le pitch pas ouf. L'accroche communicante n'est pas bonne.
Donc la chaîne regroupe des stars du net comme, par exemple, Cyprien, Norman, Kevin Razi, Hugo Décrypte, pour n'en citer que quelques-uns. Et comme on l'a dit, c'était une véritable...
catastrophe, Michel.
Donc il y a eu des bugs techniques. Au bout de 10 minutes, il y a un des chroniqueurs, si on peut le dire, qui a lâché le N-word, ce qui est pas ouf. Et ils ont été bannis de Twitch au bout de 4 heures seulement.
Ce qui est très peu pour une chaîne qui veut être sur la durée. C'est pas top.
Et donc, comme on l'a dit, les internautes, ils ont pas été dupés. Et ils ont clashé la chaîne, mais entre guillemets, gentiment. Ils ont clashé gentiment. Sauf, il y a toujours un sauf. Ça a vite dévié sur du cyberharcèlement, comme t'avais donné un exemple, Quentin.
Ouais, bah au début c'était très bon enfant, c'était à base de... En fait ce qui était beau c'est que YouTube et Twitch s'étaient mis d'accord. Dans les chats, ils mettaient les Z pour imiter les ronflements. Et ça, durant des heures entières. Donc ça c'était très drôle à voir, tu vois, c'est... C'est gentil, c'est ouais, on somnole devant votre truc de merde. Sauf qu'après, ça, ils s'en sont pris à des personnes à titre personnel, puisque par exemple, dès que le vidéaste youtubeur John Rachid prenait la parole, ils écrivaient dans les chats foyer, foyer, ah oh, mec, t'es du foyer, tout ça, parce que ce youtubeur-là a grandi en foyer. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu limite, c'est borderline.
Ce qui est très très bas quand même.
Disons que dès que ça atteint personnellement le chroniqueur, c'est dommage, quoi.
Et donc, on a eu un deuxième exemple aussi, puisqu'au moment où on a fait justement la chronique, ça venait de tomber. Donc, c'est le vidéaste Link de la chaîne One Kill Studio qui a fait quelques tweets un peu coup de gueule. Il expliquait que lors d'un live sur Twitch, les viewers ont estimé qu'il n'était pas bon au jeu auquel il jouait. Et ils l'ont spammé dans les commentaires et c'était très peu agréable, en fait. Je ne lirai pas. Si vous voulez aller le voir, mais franchement, c'est pas cool. Je comprendre pourquoi il a eu ce gros coup de gueule, à juste titre.
Ah bah, moi aussi.
On vous a demandé, en gros, si vous pensiez que les vidéastes ont raison de se plaindre de ces commentaires, et en contrepartie, est-ce que ça fait partie des conséquences légitimes de leur exposition sur Internet ?
Et du coup, votre réponse a été assez humaine et unanime,
oui.
Puisque, en général, vous dites que, bah non, c'est pas une raison pour insulter les gens, en fait. Ce qui est totalement normal.
Du coup, vu qu'on vous a posé ces questions, on va en citer quelques exemples pour éviter que ce soit trop long. Par exemple, on a Héloïse. Ils ont raison de se plaindre. C'est pas parce qu'ils sont connus que les insultes sont autorisées. Ce qui est très vrai.
Et d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus.
Ouais.
Parce que c'est un peu l'idée de cette chronique, tu vois, c'est de discuter des sujets d'actualité, de société. Non, mais sérieusement, en vrai, j'ai écouté un podcast où justement il parlait de ce truc-là, des insultes en fait. Et c'est Flaubert, le scénariste, youtubeur, tout ça, qui disait le problème quand on est dans cette semi-célébrité, c'est que les gens ont l'impression qu'on est potes alors qu'on ne les connaît pas. Et c'est ce qui ressort un peu dans le chat de Link, tu vois. C'était des trucs que tu dis à tes potes, genre « Ah, bouffon, t'es vraiment qu'un connard. Putain, mais mec, réfléchis deux secondes, tu vois. » Et en fait, je comprends que tu le reçoives très mal, parce que quand tu connais pas la personne, bah, c'est juste une
critique violent.
Hyper violente, ouais, c'est ça. Même si c'est du second degré, tu le sais pas, et surtout par écrit. Et du coup, c'est le gros problème de ces chats-là. Donc, Héloïse a un peu soulevé ce point en disant « C'est pas parce qu'on est connu qu'on peut se permettre d'être insulté comme ça. »
Complètement, ouais.
On a aussi notre petite mini à New York, Marjorie, notre fidèle, notre marraine la bonne fée, qui a répondu tout simplement non, les gens sont cons. Et je
simple
dis oui.
Mais efficace.
C'est vrai, c'est très synthétique et pourtant si fort. C'est là qu'on voit sa plume en fait.
Ouais. Dans le même type, on a Kylian qui nous dit « Il faut bannir tous ces trous du cul qui polluent les chats et qui servent à rien, ça détruit les gens. »
Et il faut souligner la dernière phrase, ça détruit les gens.
Parce que c'est ce que tu disais, c'est que les gens ne s'imaginent pas qu'ils ont une réelle personne en face d'eux qui va lire ces messages. Et ils se disent « Oh bah non, j'écris ça, ça veut rien dire, ça n'aura aucune importance, sauf que bah non. Enfin, » est-ce que toi, ça te ferait plaisir de lire ce genre de message alors que t'es juste en train de jouer à un jeu ?
Faut pas... En fait, le problème, c'est que je pense qu'on est dans un entre-deux de « j'aimerais lui parler, j'aimerais ressortir du lot » en essayant de faire une petite vanne, comme disait Flaubert, une vanne que tu fais à tes potes, mais on n'est pas potes. Et le truc de, il est tellement connu, il lira pas ce que j'ai écrit, tu vois, ce sera un message parmi des millions. Donc je me lâche, tu vois, autant faire rire le chat, tu vois. Je pense qu'il y a cette course à qui ira le plus loin pour faire rire les autres. Et le problème, c'est qu'en fait, bah, les gens lisent. Et comme n'importe qui, tu mets n'importe quel contenu public, même si c'est du théâtre vivant par exemple, t'aimes lire les retours qu'on fait de ton contenu. Et du coup, ouais, en fait, on est sur un concept très spécial de « je vais insulter et pour faire rire le chat et pour ressortir du lot », mais à aucun moment tu penses aux conséquences, au revers de la médaille, quoi. Du coup, petite astuce sur les réseaux, n'insultez pas les gens, tout simplement. Ça ne sert à rien. Sauf si ces personnes-là sont horribles, genre Isabelle Balkany et son grain de riz.
Là, par exemple.
C'est une teubée, vas-y, on peut le dire.
Là, on peut critiquer tout ce qu'on veut, là.
Donc voilà, c'était notre petit avis sur la question. Et merci encore d'avoir donné le vôtre sur Instagram. N'hésitez pas à continuer à le donner, c'est super important pour que le débat puisse toujours être aussi riche. La diversité d'opinions enrichit le débat, on le répétera jamais assez. Et voilà, je pense qu'on est sur une fin d'émission. Donc on rappelle, intégralement pas filmé sur Instagram. Hashtag IPFmime au pluriel sur Twitter, un hashtag qui est très actif puisqu'il n'y a qu'un tweet et c'est le mien.
Même pas moi.
Non mais même moi j'ai mis genre l'épisode 7 de la saison 1 et c'est tout.
On vous rappelle que nous sommes donc disponibles sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, et surtout que sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note et ou un commentaire, n'hésitez pas.
N'hésitez surtout pas à mettre la note maximale, puisque c'est ce qui fera qu'on sera mieux répertorié sur le web. Et aussi pour les plus vieux d'entre vous qui ne maîtrisent pas les réseaux sociaux, on a une adresse mail, intégralementpasfilmé@gmail.com. Mettez en objet, objet.
Ouais, je n'ai rien à répondre à cela tellement c'est parfait. Alors les petits mimes, cette semaine, on vous demande de mettre un casque si jamais vous faites du vélo.
Évidemment, toujours. La tête, évidemment. C'est très important.
De mettre votre clignotant quand vous tournez.
Ah oui,
très
et
important
surtout
aussi.
Dans les ronds-points.
Et puis surtout, regardez à droite et à gauche quand vous traversez par le passage piéton.
Faites d'ailleurs plutôt gauche, droite et re-gauche. Parce que le temps que tu regardes à droite, une voiture peut arriver à gauche. Après, ce conseil ne marche pas indéfiniment parce que le temps que tu regardes à droite, une voiture peut arriver à gauche. Mais le temps que tu regardes à gauche, une voiture peut arriver à droite. Donc, en fait, c'est sans fin.
Essayez, faites de votre mieux.
Donc on se retrouve la semaine prochaine, mes petits potes. Et d'ici là, gardez la pêche. Ciao !